Bibin, le magazine qui explore, qui voyage, qui découvre. Suivez nos micros sur les chemins de traverse.
Une douzaine de générations séparent Yves Kefelec, qui est nordiste mais qui revient régulièrement passer ses vacances en Finistère, et ses ancêtres, Michel et Joseph Le Kefelec, dont nous allons suivre les ribines aujourd'hui. Depuis des années, Yves Kefelec joue les historiens, très sérieusement, pour suivre à la trace ses ancêtres. Il a fallu les reconnaître dans les documents sous un autre nom, celui de leur terre, Kerlazu. Et il a fallu explorer ces documents de possession des terres, les terriers, dans le Finistère, mais aussi des archives diplomatiques à la Courneuve et d'autres documents encore aux États-Unis. Car c'est là-bas, en Amérique, que l'essentiel de l'histoire s'est déroulé, et c'est donc ce descendant Yves Kefelec qui va nous la raconter.
Les frères Kefelec se dénomment Michel et Joseph Kefelec. Ils sont nés dans les années, pour Michel le frère aîné en 1682 et pour le jeune frère Joseph le Kefelec en 1697. Donc ce sont des gens qui sont nés à Port-Launay. Et ils étaient fils de Roland Kefelec, notaire tout d'abord à Port-Launay et Châteaulin, et qui ensuite est devenu avocat à la cour royale de Brest. Roland Kefelec est lui-même fils de Jean Kefelec, notaire, et il y a d'autres notaires royaux à Châteaulin, de Kefelec, qui s'appelaient Guillaume et Louis Kefelec, sur une zone géographique entre Châteaulin, Plébin et Port-Launay. Quand Roland Kefelec, papa, est allé travailler à Brest, il s'est marié avec une Brestoise qui s'appelait Françoise Alain, qui elle-même était descendante de notaires à Brest et d'une famille liée au maire de Brest, en particulier les Staubec. Donc aussi bien pendant leur jeunesse à Port-Launay, ils côtoyaient des familles affiliées. Guillaume le Kefelec était marié avec une Lisac, et les Lisac étaient des commerçants sur Audierne, Landerneau, Châteaulin, Morlaix. Donc déjà, côté paternel, il y avait des commerçants, des négociants.
Donc des gens qui naviguaient, c'est ça que vous voulez dire?
Qui naviguaient, qui faisaient de la navigation de type côtière pour aller exporter ou importer des matériaux depuis les ports côtiers sur le pourtour finistérien. Et côté maternel, là c'est une autre dimension, ce sont des familles liées aux Staubec qui sont des créateurs de la ville de Brest. La plupart des maires de Brest sur les deux premiers siècles sont tous issus ou affiliés aux familles Staubec, les Lars, les Monod en particulier. Toutes ces familles-là sont plus ou moins liées aux Staubec d'origine et donc aux Kefelec. Donc aussi bien du côté paternel que maternel, il y a un lien fort avec des négociants, des commerçants, des navigateurs. Et je pense que ce qui a poussé la famille à travailler dans la royale, c'est qu'il y a eu deux édits de marine, des édits royaux, qui ont créé, organisé la marine royale. Donc le premier édit sous Colbert en 1681 et le deuxième en 1689 qui ont organisé toutes les fonctions dans la marine royale comme les aumôniers, les chirurgiens, les pilotes et bien sûr les maîtres et les capitaines.
Et alors nous deux Kefelec deviennent pilotes. Alors pilote c'est un métier vraiment très particulier, il faut expliquer ce que c'est.
Ben pour être pilote, d'abord la notion de pilote est multiple, parce qu'il existe des pilotes qu'on appelle des pilotes côtiers, qui accompagnent les navires dans les entrées des petits ports tout au long des côtes. Il y a des pilotes lamaneurs qui sont des pilotes fluviaux, et il y a des pilotes de haut cours, des pilotes hauturiers, pour faire de la navigation entre les pays, pour aller à Lisbonne, pour aller à Amsterdam, où les Bretons allaient très fréquemment. Pour être pilote, il a fallu, ce sont ces deux ordonnances de marine sous Colbert et son fils le marquis de Seignelay qui ont organisé le métier de pilote. Et en particulier, il fallait suivre l'école d'hydrographie qui avait été récemment créée et qui nécessitait 10 années d'enseignement. 10 années d'enseignement, dont 5 de navigation. Et ces 10 années d'enseignement se passaient entre l'âge de 15 ans et de 25 ans.
Oui, donc c'était une sacrée formation, on était très compétent quand on était pilote.
En effet, on avait beaucoup de compétences quand on était pilote. On avait des compétences de navigation, parce qu'il fallait savoir où on se trouvait en mer, mais il fallait des compétences aussi en mathématiques, en physique. Il fallait comprendre les courants marins, il fallait savoir draguer, et donc il fallait connaître les machines. donc les dragues, les pompes, les machines à mater, etc. Et il fallait aussi des compétences en astronomie, en canonnage, parce qu'il fallait connaître les méthodes de fortification et de canonnage. Il fallait savoir profiler une côte également. Quand le rôle des pilotes, quand ils naviguaient, était en permanence de dresser des cartes, bien sûr piloter le navire, mais en même temps, et en particulier lors des escales dans les ports, profiler les côtes, les fortifications ennemies ou alliées, pour bien les connaître.
Des données qui devenaient très précieuses après, qui étaient très convoitées.
Oui, les cartes des premiers pilotes étaient extrêmement recherchées. Beaucoup de cartes étaient faites de manière très approximative et on s'apercevait dans le temps qu'il y avait beaucoup d'erreurs sur pas mal de cartes. Et quand on trouvait un pilote très expérimenté et qui faisait des bonnes cartes, on se les arrachait. J'ai pu retrouver une carte du pilote Joseph Le Kefelec qui a été retranscrite dans un ouvrage d'un jésuite de Saint-Quentin en Picardie, le père Charlevoix. Et Charlevoix a fait un voyage à la demande du roi de France, a fait un voyage qui a descendu depuis le Québec jusqu'aux embouchures du Mississippi. Et Kefelec, Joseph, lui a fait une carte pour lui expliquer comment on rentrait dans le Mississippi. Ces deux garçons sont partis en 1720. On a un acte notarié qui a été établi à La Rochelle chez un notaire, donc, et qui donne le rôle d'équipage d'un petit brigantin ou traversier de 30 tonneaux qui s'appelait La Légère, sur lequel ils sont partis. L'un avait 23 ans et l'autre avait 32 ans. Dans leur contrat, par acte notarié, il est écrit ce qu'on attend d'eux et de chaque marin. Donc dans leur traversier, il y avait une dizaine de personnes. Et Michel, qui était maître pilote et donc capitaine de ce traversier, devait faire du cabotage de port en port là-bas. Donc il avait un rôle de cabotage et un rôle de transbordement. Donc ça veut dire que quand on est arrivé à la Louisiane, il y avait régulièrement, la Compagnie des Indes à l'époque avait envoyé à peu près fréquemment des navires depuis essentiellement d'ailleurs l'Orient ou Bordeaux, La Rochelle. Et une fois que les navires arrivaient, il n'y avait pas de port. C'était un pays qui était encore à l'état de découverte, donc il n'y avait pas d'infrastructure comme on a aujourd'hui. Et donc les bateaux arrivaient à l'île aux vaisseaux qui était devant la Mobile.
Alors la Mobile, c'est une rivière.
La Mobile, c'est une rivière et à côté, il y avait le fort de la Mobile, un petit fort avec des militaires. Et à l'ouest de la Mobile, il y avait ce qu'on appelait au départ le vieux Biloxi, et ensuite ils ont déménagé un peu plus à l'ouest pour aller au nouveau Biloxi. Mais le problème, c'est que ces grands vaisseaux qui arrivaient de France ne pouvaient arriver qu'à peu près à 4 lieues des côtes. Donc il n'y avait pas de quai, et donc il fallait transborder.
Tous les marchandises qu'ils apportaient, en fait, que les vaisseaux apportaient, c'est ça ?
Marchandises et aussi les hommes. Il y a eu 7000 personnes apportées par la Compagnie des Indes pendant cette période-là, et tous les matériels pour pouvoir construire des bateaux. Des maisons, des champs, des charrues, il faut aller des forgerons, des boulangers, plein de compétences, hein, des métiers, des maîtres dans leur domaine. Et donc il fallait faire des transbordements de matériel et d'hommes en allant de bateaux de plus en plus petits. Donc on transbordait le bateau à partir d'un traversier et à la fin il fallait mettre ça dans des petites barques au bord de l'eau quand la mer était peu profonde, un mètre ou deux. Et ensuite on chargeait des charrettes qui étaient tirées avec des chevaux pour sortir tous ces matériels et tous ces hommes de la mer et les mettre sur les plages. La France avait donc en Amérique du Nord une grande partie du Québec actuel, une très très grande partie du Québec, dans une date, dans les années 1400-1500. Et la création de la Louisiane française ne correspond pas à la Louisiane d'aujourd'hui. La Louisiane d'aujourd'hui, c'est le 25e État des États-Unis, avec à peu près 5 millions d'habitants aujourd'hui. Et il est confiné à l'embouchure du Mississippi, au golfe du Mexique. Alors qu'à l'époque, la Grande Louisiane était en fait toute la zone s'étendant d'est en ouest, depuis les chaînes montagneuses des Appalaches à l'est et jusqu'à l'ouest aux Grandes Rocheuses. Et ce bassin représente presque la moitié de la surface des États-Unis d'Amérique d'aujourd'hui. Et en fait, elle correspond tout simplement au bassin hydrographique du Mississippi avec les rivières Arkansas, Missouri, Ohio, etc. Donc gigantesque. Il ne faut pas imaginer la Louisiane telle qu'on la voit avec des autoroutes à quatre voies de chaque sens. Il n'y avait pas de chemin. Les tribus étaient très en symbiose. Les tribus indigènes étaient plutôt chasseurs-cueilleurs avec un peu de culture, mais n'étaient pas à l'occidentale, à l'européenne, des constructeurs. Donc il y avait très très peu de... Il n'y avait pas de chemin, pas de passage, hormis les rivières. Donc en effet, la possession des rivières et des fleuves était critique pour maîtriser les mouvements de population. Donc c'est un enjeu stratégique parce que le nord du Mississippi, qui fait quand même 4000 km de long, il y avait les Grands Lacs, et là vous touchez aux Canadiens, donc les Français du nord des États-Unis. Et au sud, il fallait bloquer l'entrée de ce grand fleuve. Donc c'est pour ça que stratégiquement, il fallait absolument tenir l'embouchure. Parce qu'à partir du moment où vous faites le lien entre... au nord le Québec et au sud le golfe du Mexique, vous empêchez l'anglais de déborder des Appalaches, surtout si vous bloquez l'Ohio au nord, et vous empêchez l'espagnol d'aller vers l'est. Donc c'était un enjeu politique, économique, de stratégie de premier ordre.
Donc les Français coupaient l'Amérique du Nord en deux, quoi. En gros, on était au milieu et on embêtait tout le monde.
On embêtait tout le monde, mais on a eu beaucoup de peine aussi. Hein. La création de la Louisiane est quelque chose de très difficile. Il y a beaucoup d'événements, épidémies, famines, inondations. On connaît les événements de Katrina, par exemple, récemment encore aux États-Unis, où des centaines de milliers d'Américains ont été déplacés de la Nouvelle-Orléans à Baton Rouge parce que le pays était devenu totalement invivable. Et il faut savoir qu'à l'époque, le pays était totalement invivable du fait que le Mississippi avait énormément de... Il y avait des ouragans, et ces ouragans, des tornades, faisaient déborder le Mississippi qui n'avait pas des rives consolidées comme aujourd'hui. Donc en fait, le pays pouvait se trouver ennoyé des mois durant. Et qui dit ennoyé dit marécage, zone marécageuse pendant des mois, développement des insectes et des maladies et famine, disette, parce que tout est détruit, il n'y a plus de maison, il n'y a plus de récolte, on n'a plus rien, et en même temps les maladies s'installent, donc une mortalité très 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 élevée.
Et sur quoi reposait la colonisation française? Quel était le projet des Français pour la Louisiane? C'était quoi, de faire de l'agriculture ou autre chose? L'exploitation minière?
Alors les terres de Louisiane, il y a plusieurs types de Français. Il y a les Français qui vivent à Paris et qui, à l'époque, étaient des investisseurs. Donc là, on a englouti des millions de livres à l'époque pour créer une compagnie qui a été rachetée à M. Antoine Crozat. Crozat avait en 1712 eu de Louis XIV les droits, les privilèges exclusifs commerciaux pour la Louisiane. Louisiane française, mais à lui seul n'a pas pu développer son projet et a acheté l'éponge en 1717. En 1717, il y a eu la compagnie d'Occident qui a été créée avec John Law, qui a été transformée en 1719 en compagnie du Mississippi. Et là, il y a eu des moyens militaires, commerciaux à partir du port de l'Orient, une grosse volonté de peupler cette Louisiane. Et en effet, parallèlement, le roi de France envoyait régulièrement des jésuites, des militaires, des ingénieurs, connaître les capacités du pays. Et donc, on a su très vite qu'on pouvait exploiter les bois, énormément de bois. On pouvait exploiter l'indigo, on pouvait le planter, le tabac donnait beaucoup. Beaucoup d'essais ont été faits avec du riz également. Et donc, on a su très vite que le pays pouvait produire des quantités colossales de denrées. La grande difficulté, justement, ça a été, et d'ailleurs ça a duré très longtemps, même après le décès des frères Kefelec, c'était la pénurie de main-d'œuvre, d'où l'arrivée des esclaves africains, qu'on appelait à l'époque nègres, qui devaient aider dans les exploitations pour avoir des bras et puis pouvoir développer l'agriculture. Côté minier, on a souvent cherché, comme les Espagnols, des mines, mais il n'y a pas eu de grosse production minière au début de la Louisiane. On a surtout donc développé le commerce des produits de base, type agriculture, type fourrure, à partir de trappeurs par exemple, ou d'agriculteurs.
Quand on construit un pays, il faut une capitale, et c'est là qu'il y a un enjeu entre deux villes et que les frères Kefelec interviennent.
Alors, en effet, les Kefelec ont participé de manière technique forte indépendante, je veux dire. Pourquoi ? Parce que la première capitale de la Compagnie des Indes, ou même d'Antoine Croizat au départ, en 1712, avait été l'ancien Biloxi, ce qu'on appelait le vieux Biloxi, remplacé quelques années après par le nouveau Biloxi, mais sans prendre de décision pour le changer de place. C'était au sud, entre la Mobile, la rivière la Mobile, et entre le Mississippi, donc à l'est du lac de Pontchartrain. Il y avait donc des villes où étaient installées deux populations. D'abord, des premiers Québécois qui étaient descendus jusque-là pour faire du commerce. Donc, il y avait des enjeux commerciaux côté Québec. Et puis, la compagnie, c'est-à-dire que les membres de la compagnie recevaient d'énormes quantités de denrées alimentaires et de matériel pour des clous, des planches, des marteaux, des pelles, tout ce qu'il faut pour construire un pays, quoi. Et ils revendaient à prix d'or aux colons locaux. Donc il y avait une habitude qui avait été prise au détriment des colons et donc d'un développement sain de la colonie, ce qui d'ailleurs a failli anéantir la colonie à plusieurs reprises. En plus des inondations et des épidémies, il y avait des enjeux économiques que certains privilégiaient pour faire des marges sur des denrées. Et les colons se trouvaient prisonniers entre des prix d'achat, parce qu'ils achetaient de la matière à des prix qui étaient fixés, et la compagnie avait prévu de leur racheter des produits à des prix fixés. Donc ils étaient pieds et mains liés entre le prix de vente et le prix d'achat, il n'y avait pratiquement pas de marge. Et donc beaucoup d'ingénieurs en chef, Adrien de Pauget par exemple, et puis d'autres, n'ont jamais compris pourquoi on s'acharnait des années durant, au péril même de toute l'entreprise Louisiane française, on s'acharnait à installer cette capitale au Biloxi. Le problème majeur, c'est qu'il n'y avait pas de port. Donc les bateaux qui arrivaient de la métropole pour amener hommes et vivres et matériel restaient au large à 4 lieues. Hein, et donc il fallait faire du transbordement extrêmement délicat jusqu'à des côtes peu profondes. Et on arrivait une fois sur place à des zones quasi désertiques sur lesquelles les populations de colons souffraient énormément, ne pouvant pas s'installer immédiatement et vivre de leur production ou des échanges avec les tribus indiennes. Et donc l'enjeu, c'était de pouvoir, c'est là qu'on jouait un rôle majeur les frères Kefelec, l'enjeu c'était de trouver un lieu où les colons pouvaient s'installer très rapidement. Et au niveau du Mississippi, le premier enjeu, c'était de démontrer la navigabilité du Mississippi à tous les types de navires pour rentrer. Donc il fallait trouver un lieu de passage, parce qu'à l'est, il y avait beaucoup de zones de mer, des lacs, des marécages, et il a fallu trouver l'embouchure et démontrer ensuite sa navigabilité. Le fleuve Mississippi est un des plus gros fleuves du monde. Il charrie énormément de matériaux, en particulier lors de la fonte des neiges, etc. Il y a des embarras pas possibles avec des arbres, des sables charriés par ce gigantesque fleuve. Et vous avez une embouchure extrêmement compliquée. C'est-à-dire que l'eau portée par ce fleuve se trouve distribuée par une multitude de petits chenaux et il n'y a pas donc d'embouchure nette de ce fleuve. Ce fleuve qui charrie des matériaux par millions de tonnes forme une excroissance de terre à son embouchure où les alluvions créent une barre et les bateaux ne peuvent plus passer dans cette barre. Donc l'enjeu a été d'abord de démontrer que les barres étaient assez basses et non dangereuses, par exemple de la vase, pour que les bateaux puissent s'y risquer sans problème. Et ensuite, il a fallu travailler avec en particulier l'ingénieur Adrien de Pauget et puis certainement les frères Kefelec pour canaliser toutes ces eaux. Donc il suffisait de couler quelques vieux bateaux à des endroits où l'eau s'évacuait de manière non attendue. Cette eau qui se trouvait bloquée, ne pouvait plus s'échapper, se retrouvait dans le chemin principal. À partir du moment où vous faisiez la centralisation de toutes les eaux du Mississippi sur un chenal majeur, la force du courant était suffisante pour dégager toutes les alluvions et recreuser l'entrée de la bouche du Mississippi. Le travail des frères de Kefelec, c'était de jouer le rôle de pilote dans cette embouchure du Mississippi. On a parlé de le travail de transbordement. Ce n'était qu'une partie du travail, puisque le transbordement n'avait lieu que lorsque les navires arrivaient. Entre ces étapes, il y avait un travail d'analyse de toute la zone côtière pour faire du cabotage et remonter les fleuves, les affluents, jusqu'au Natchez, Natinochez, Bâton Rouge, etc., très en amont de la bouche du Mississippi, pour apporter du matériel jusque dans les terres en amont sur le fleuve. fleuve. Mais c'était aussi créer une entrée protégée pour protéger les territoires français. Donc il y a eu la création du fort de la Balise, donc dans cette embouchure, et l'élargissement du canal et sa navigabilité. Donc il fallait nettoyer en permanence cette embouchure, et le rôle du pilote est critique parce qu'il fallait en permanence connaître là où le chenal était le meilleur pour les navires.
Donc c'était des aventuriers, hein, les frères Kefelec.
C'était des aventuriers et en même temps, des aventuriers parce que la vie là-bas était extrêmement dure. C'était des cabanes, et des cabanes souvent détruites, inondées, beaucoup de difficultés ne serait-ce que pour se nourrir. Et puis aventuriers parce qu'il fallait aller dans des zones totalement inconnues à l'époque. Il s'agissait véritablement de découvrir un pays et d'apprendre à l'adapter à nos exigences techniques, en particulier sur la navigabilité.
Alors, comme ils ont démontré que le Mississippi était navigable, les frères Kefelec, on a pu créer la Nouvelle-Orléans.
Alors, en effet, une fois qu'on a su convaincre la navigabilité du Mississippi, il a fallu d'ailleurs des personnes tierces. Tout à l'heure, je parlais du père jésuite Charlevoix. Charlevoix a passé une journée entière avec M. de Poget, l'ingénieur en chef, ainsi qu'avec Joseph Le Kefelec, c'est cité dans ses manuscrits. Et il a passé la journée entière pour se faire démontrer la complexité de l'embouchure du Mississippi et sa navigabilité. Donc, on a sondé le Mississippi et il est reparti à Paris, expliquer qu'il n'y avait pas de raison de tenir Biloxi comme capitale et qu'il était beaucoup plus pertinent pour les colons d'aller s'installer directement dans des zones fertiles où ils étaient en contact et avec les populations locales déjà installées ou les tribus indiennes et de ce fait ne dépendaient plus et se retrouvaient très vite autonomes pour se mettre à labourer, à cultiver et à développer leurs exploitations. Donc en fait, la création de la Nouvelle-Orléans, elle est officialisée comme capitale en 1723. Et il y a donc deux facteurs qui ont joué dans cette création. Premier facteur, c'est qu'elle était devenue vivable. On appelle ça le Crescent ou le vieux quartier français. Et cette fondation est due à un deuxième événement qui est le fait que le roi de France autorise les Espagnols à garder le petit fort de Pensacola qui était à l'est de Biloxi. Donc, sachant qu'on ne pouvait plus attaquer régulièrement le fort ou le prendre ou le perdre, le reprendre ensuite comme on le faisait par des coups de main, des coups de force militaire, le roi de France a exigé qu'on n'embête plus les Espagnols dans leur fort de Pensacola. À partir de ce moment-là, tout le monde a été convaincu qu'il fallait bouger et se déplacer à la Nouvelle-Orléans.
Et les frères Kefelec, du coup, ils sont restés dans leur ville de la Nouvelle-Orléans. Qu'est-ce qu'ils ont fait après ?
Non, ils ne restaient pas dans leur ville de la Nouvelle-Orléans. On a vu leur côté ingénieur pour créer l'embouchure navigable du Mississippi, mais ce sont des gens qui ont été un peu partout dans le golfe du Mexique, mais également des événements qui ont eu lieu, par exemple en 12 juillet 1722, un groupe de Suisses ouvriers pour faire les ouvrages type le fort de la Balise, des choses comme ça, ont déserté. Et pour déserter, ils ont pris le bateau des Kefelec, de Joseph Le Kefelec, pour aller à Cuba. Donc on sait que ces frères-là sont allés, par exemple, à Cuba. Une fois arrivés là-bas, les Suisses ont été rejetés par les Espagnols et ont exigé que les Kefelec les emmènent en Floride, pour toucher les territoires anglais. Probablement, les Suisses sont partis dans les terres anglaises, mais le frère Kefelec, lui, est revenu en Louisiane. Donc voilà un événement où on voit que, aussi bien l'embouchure que les fleuves et les affluents de ce fleuve, les zones côtières, mais aussi la mer, le golfe du Mexique, étaient connus des Kefelec.
Comment ils ont terminé ? Comment ils ont fini leur vie, les Kefelec ?
Ils sont décédés tous les deux donc, en Louisiane. Le frère aîné, Michel Le Kefelec, est décédé probablement en 1721. Et on a la trace du décès de Michel Kefelec par un acte notarié à Brest, probablement décédé pendant l'énorme épidémie de 1721 au Biloxi. Ce sont essentiellement des maladies qui sont assez locales et qu'on ne connaissait pas en Europe, dues aux insectes, par exemple. Le second frère, le jeune frère Joseph Le Kefelec, il est cité par d'autres historiens comme Diron d'Artaguiette, qui a fait un journal de la Louisiane à son arrivée. Et on sait que plusieurs reprises, son traversier a fait l'objet de convoitises. Des soldats désertaient énormément. Il y avait des problèmes de solde, ils n'avaient pas leur solde en temps et en heure. Des problèmes de nourriture, des fois des périodes de disette ou d'épidémie. Tout le monde fuyait. Même en 1722, tout un régiment de soldats français a refusé d'aller à la Nouvelle-Orléans parce qu'il était trop dangereux d'y vivre encore.
Et là-bas, donc sur place, ils voulaient, les déserteurs volaient les bateaux, enfin essayaient de voler les bateaux.
Oui, de nuit, ils attaquaient les petits bateaux pour transporter une vingtaine de personnes pour partir. Un mélange souvent de soldats et de colons et puis de gens locaux qui connaissaient bien les habitudes des traversiers et des Kéfélecs et qui profitaient des périodes où le bateau était peu occupé par les marins pour se les approprier indûment. En novembre 1722, on sait que les Kéfélecs étaient au fort Louis, donc dans la baie de la Mobile, pour transporter de la farine du fort de Louis à donc la Mobile. Et à ce moment-là, toute une troupe de soldats et de civils se sont accaparés de son navire de force. On sait par Diron d'Artaguiette qu'il s'est vaillamment débattu pour sauver son bateau, mais il a été sévèrement battu, frappé, blessé même, et ils l'ont jeté à l'eau sur la grève. On connaît la date de décès du deuxième jeune frère, Joseph, qui a été décédé en septembre, quelques mois plus tard, en septembre 1723, et justement d'une blessure à la jambe gauche, pour laquelle il a fait l'objet d'une opération chirurgicale par un chirurgien officiel, M. de Saint-Hilaire, qui est venu l'amputer. Les suites de l'opération ne se sont pas bien passées. Malgré les soins de ce chirurgien, pendant une dizaine de jours, Joseph Le Kéfélec est décédé de son opération.
Et si vous souhaitez en savoir plus, vous retrouvez un lien avec l'histoire écrite des frères Kéfélec en Louisiane sur le site internet de la radio.